création on air. On air. On air. Creation on air.
Pendant 2 ans, la dramaturge Judith Bordas a interrogé des femmes sur la manière dont elles évoluent dans l'espace public et leur éducation à la prudence. Les stratégies de fuite, de défense, qu'elles mettent en place pour se déplacer en zone sombre dans une ville inconnue ou dans la nature sauvage par une nuit de pleine lune. Ralentir le pas, marcher avec des talons plats, faire de ses clés une arme potentielle, parler au téléphone, avoir l'air de savoir où on va. Traverser les forêts par Judith Bordas et Annabelle Brouard en partenariat avec la RTBF.
Elle y a été. Elle a été dans la forêt la nuit, hier soir. Nous sommes 3 autour d'elle. Couette et jupe parasol qui se penchent, qui complotent. Où était-ce? Quelle heure était-il? Hier soir, elle dit. La nuit tombée. Il y avait beaucoup de feuilles et je voulais dormir dessus, elle dit. J'aurais bien fait une sieste et elle rit pour montrer qu'elle n'est pas folle. Les sons que produisent les autres corps jouant dans la cour n'ont plus aucun intérêt. Hurlements et courses-poursuites fades. Gouttées qui tombent au sol et larmes de désespoir. Il nous semble que son corps, à elle, est plus grand. Lesté par 2 grands yeux qui nous regardent, l'une après l'autre. Et après. Elle dit, le ruisseau au loin qui s'écrase dans le petit dénivelé. Vous voyez? L'endroit où l'on va à Pâques déjeuner. Papier alu et fromage à pâte dure. La nuit, c'est terrible. Elle feint qu'il n'y a rien eu d'autre de spécial que le bruit de l'eau qui se fracasse, là, dans la nuit bleue. Elle dit, je voulais voir la nuit, comme on a faim, comme on veut quelque chose. Éclater une bulle de savon dans le bain, courir dans un champ en pensée. Nous allumons dans nos yeux un procès. Tu n'avais pas le droit. Ton délit est d'avoir voulu la nuit, d'avoir été avec ton corps dans ce lac bleu interdit. La cloche sonne. Toute la matinée, cette pensée en boucle et obsédante. Elle a vu la nuit.
Être seule. Pouvoir être seule avec ses pensées.
Je pense que c'est un interdit que je me mets. Je me dis pas qu'il peut m'arriver quelque chose en forêt. Pas du tout.
J'ai une envie de solitude énorme.
Il y a un truc qui vrille, quoi.
Ça dépend où je suis.
Et en fait, j'ai pas envie de penser ça.
Un endroit où j'avais pas à être.
En fait, tout d'un coup... Il y a un lieu de fantasme qui s'ouvre.
La rue, peut-être des bars.
Parce que tu veux dire, la question, c'est pourquoi tu risques rien?
La résistance idyllique, j'appellerais ça.
Quel modèle de femme. J'ai eu ma mère que j'adorais. Autrement, d'autres modèles, c'était des images assez... C'est presque trop clinquant comme image, c'est-à-dire c'est Calamity Jane, c'était mon héroïne pendant 10 années. Il y a des grandes femmes, là. On m'a parlé d'Ella Maillard, on m'a parlé de... Mais je n'aimais pas ce modèle de femme qu'on nous montrait enfin. Il fallait leur suivre, il fallait faire attention à tout, il fallait... Ces camarades de classe qui rapidement ne parlaient que des garçons, ne parlaient que de ci, que de ça, de choses quand même assez... enfermants et vraiment réducteurs, quoi. Je rêvais, ah oui, à 14 ans, je rêvais d'être, même avant 13 ans, je rêvais de partir me battre avec les guerrieros. Et un jour, une professeure donc, nous a posé la question, que voulez-vous faire plus tard? Alors, certains ont dit, je serai professeur de ci, je serai ça, je serai infirmière, je serai... Et lorsque mon tour est venu, j'avais le cœur battant et j'ai dit, moi j'irai me battre avec les guerrieros. Évidemment, toute la salle a éclaté de rire. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, j'irai plus jamais rien à personne. Et en dedans, je pensais, cause toujours, moi je serai une aventurière. Parfois j'ai voyagé et je savais que le vrai voyage commençait lorsque j'étais complètement perdue. J'étais perdue en Chine, lorsque les frontières s'ouvraient, je me mettais à pleurer avec mon gros sac parce que j'étais perdue. Je mouchais dans mes doigts, je me disais, bon ben, ça y est, on repart. Une fois, j'étais perdue à Bangkok, dans un mauvais quartier. J'étais perdue dans un village au Guatemala, dans la montagne. Je savais pas où j'allais dormir. J'aimais cette espèce d'incertitude. Parfois, après des jours et des jours de solitude dans des coins assez perdus, les gens étaient assez hostiles aussi. Je me disais, je suis vraiment seule au monde. Là, je suis vraiment... J'ai plus rien auquel me raccrocher. Un matin, on se réveille. Et tout d'un coup, on se dit, j'ai pas envie de sortir. Et tout d'un coup, il y a un grand calme qui se fait. Et je dis, maintenant, ça commence.
Stop. Je veux traverser des grandes distances sans argent. Depuis que je me déplace sans mes parents à travers le pays et plus loin encore. Je prends mon sac pour m'aventurer le long des routes et des autoroutes. Je n'ai pas de téléphone. On me dit, une fille seule, c'est trop dangereux. Et je pense, un homme qui voit une fille seule est potentiellement dangereux. Moi, je ne suis pas le danger. Je trace ma route. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas arrêter de prendre des risques. Quand, dans la voiture, la discussion tourne au vinaigre, je fais semblant de n'y rien comprendre. Je parle sans m'arrêter. Je raconte mes exploits en karaté. Je parle froidement et sans discontinuer. Il ne faut pas qu'un vide s'installe, un silence qui donnerait l'avantage à mon interlocuteur. Mettre un masque, sans sourire et sans angoisse, lorsque les portes se ferment automatiquement. Expliquer sans trembler que finalement je me souviens que l'ami qui m'attend m'a dit que je pouvais m'arrêter plus tôt dans la première ville qui arrive. Éviter de comprendre ce qu'il veut faire de l'argent qu'il vient de sortir de sa poche. Esquiver la main qui allait s'écraser sur ma poitrine. Ne pas voir sa main sur son autre jambe. Ne pas hurler quand la voiture quitte la grande route pour faire un détour. Faire semblant de dormir quand il s'arrête sur le bas-côté pour changer de pantalon. Ne pas scier, rester droite et attendre le meilleur moment. Pour fuir, naturellement, sans en avoir l'air, calmement. Alors, ensuite seulement, pleurer, crier le monde dehors, hurler les hommes, les égorger en pensée.
Il faut compter énormément sur notre physique. La physique, c'est lui qui nous porte. Il faut savoir courir vite, il faut savoir mordre au bon moment, il faut savoir ruer, il faut savoir... Parce qu'on sait qu'avant tout, le monde suit les lois de la nature. La nature est physique. Donc il faut apprendre à compenser, à être plus fort d'une autre manière, plus rapide, plus anticipé. Et c'est un peu la même chose. Il faut dépasser donc cette... Ça risque de vous arriver. Donc trouver moyen, sans violence, d'éviter la chose. Et quand on ne peut pas l'éviter, alors il faut apprendre à taper un peu.
Moi, je partais tellement du principe que qu'on était en sécurité à peu près partout dans ce monde, quoi. J'avais un truc comme ça vachement fort. Et je continue à l'avoir un peu, en fait, au final, quoi. C'est ça qui est assez bizarre, mais... J'essaye de garder l'esprit super clair, même dans des situations qui étaient vraiment pas chouettes. Je sais. On m'a raconté plein d'histoires, et je peux me les imaginer aussi très très bien, toute seule. Mais j'ai pas de peur paralysante, en fait, c'est ça le truc, je crois. Je me paralyse pas.
Dans la peur, on ne voit rien du tout. La peur nous enlève les détails. Deux ombres près de la mairie, avec une seule tête. La mélodie du vent au travers du kiosque à journaux. Des yeux jaunes qui chassent plus petits que soi. Les détails nous échappent. Les nuances de la situation sont occultées par les lignes grossières de l'urgence. La peur est un peu comme une seconde peau. Une toile fine et tendue entre soi et le réel. Il y a simplement cette distance-là, l'impression d'une vie jamais pleine et saisie à pleine sensation.
Je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours su. Et qu'on m'a toujours transmis. De faire attention. La potentialité est énorme. En tout cas, elle est énorme dans ta tête, quoi. Elle est présente tout le temps. Je marchais en forêt quand j'étais gamine, en pleine nuit. Alors évidemment, j'avais peur des bruits, de croiser un lynx, un loup, etc. Mais c'était des peurs fantasmées. Par contre, là, les peurs que j'ai en ville ne sont pas des peurs fantasmées. Je ne supporte pas les regards insistants, les sifflements, évidemment toutes les petites insultes du type « salope » ou alors « viens voir, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble » et tout. Ça m'insupporte et j'ai une peur qui se transforme en colère du coup. Où j'ai envie de tabasser la personne qui est à l'origine de cette peur, quoi. Et la personne qui est à l'origine de cette peur, ben c'est les mecs, quoi. Parce que je me suis jamais fait emmerder par une nana dans la rue de nuit. Ça a toujours été des mecs. Avant, j'avais des petites stratégies pour éviter qu'on m'emmerde, etc. Donc le faux coup de téléphone. Maintenant. Je suis tellement en colère et je pense que j'ai tellement envie de taper dedans que je marche la tête super haute, je gonfle la poitrine pour montrer que je suis sûre de moi, je marche de manière très ferme, donc pas forcément très détendue, mais je marche, j'impose une sorte de posture de « je suis sûre de moi, va falloir faire un effort pour m'atteindre quoi ». Et par contre, je sais que souvent, j'ai la clé de chez moi dans ma main et que je suis prête à frapper avec, en fait, si jamais il y a quelque chose qui m'arrive.
Il y a quatre clés à mon porte-clé. Lorsque j'entends les pas derrière moi, la peur se transforme en force. Je suis prête à hurler, lui transpercer le corps, arracher les yeux, balancer mon pied dans son entrejambe. Je prépare les clés pour la maison et pour l'assaut. J'en glisse une entre chaque doigt de ma main. un coup de poing ne suffirait pas. Il y a 4 clés à mon porte-clés.
J'adapte mes vêtements et mes chaussures aux conditions que je pourrais potentiellement rencontrer. C'est-à-dire que je veux pouvoir m'évader en courant, je veux pouvoir courir et talons, c'est pas possible. Si je sais que je vais être dans un endroit où je vais pas me sentir forcément très en sécurité, je vais avoir des chaussures souples et je vais être habillée de manière la plus caméléon possible, transparente. Et dans ces situations où ça peut arriver de devoir croiser des groupes de jeunes ou des groupes de gens, en général masculins, où j'ai peur, j'ai le réflexe de baisser les yeux, de marcher super vite, et je me voûte. Je marche voûtée, j'essaie de me ratatiner, de pas... Je veux surtout pas qu'on me voit, en fait. Et passer le plus vite possible devant eux pour qu'on me voit pas. Et quand j'avais encore les cheveux longs, je les détachais, puis je me démerdais pour les croiser, qu'ils voient pas mon visage. Si par exemple ils étaient sur ma droite, je tournais la tête à gauche et je regardais n'importe quoi sur le bas d'un mur ou le trottoir de gauche, et je me démerdais pour que je les croise et qu'ils aient vu que mes cheveux. C'était une espèce de rideau. Les cheveux, c'était le prétexte, enfin un rideau pour qu'on me voit pas.
Moi, j'aimerais bien rentrer bourrée le soir et puis avoir des divagations, sans doute de la poésie, etc., etc. Les grands alcooliques qui écrivent et qui sont capables de penser à plein de trucs et d'écrire des textes magnifiques. Mais nous, on peut pas faire ça, en fait. On peut pas partir dans des divagations parce qu'on a cette putain de peur qui nous occupe tout le temps, le ventre, l'esprit, le ventre. Moi, je suis en colère pour ça, en fait. On me vole mon temps, on me vole mon esprit. On vole le corps de celles qui se font évidemment agresser. Mais je crois que le pire, c'est qu'on nous vole notre espace mental, en fait. Pour moi, c'est ça qui me met super fort en colère. Et je pense qu'on aurait beaucoup plus de, comme ils disent, de Baudelaire féminin si on pouvait rentrer le soir bourré et avoir des divagations comme ça. Enfin, partir dans des pensées poétiques, quoi.
Je vais faire attention aux hauts que je porte, je vais faire attention à toujours avoir un gilet au cas où, des réflexes sur les tenues vestimentaires. Et après, moi j'ai appris la technique des clés dans les mains, et du coup quand je rentrais le soir j'utilisais ça. J'avais mes clés entre mes mains et je savais que... Et pourtant je me suis toujours dit, mais jamais je serais capable de taper quelqu'un. J'ai l'impression d'avoir fait ça. Je continue moins à le faire. Maintenant, je fume. Enfin, en fait, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans les mains quand je suis toute seule dans la rue. Je vais préparer ma cigarette avant de partir et je vais l'allumer sur la route. Et en fait, c'est quand même pour montrer que je suis occupée à faire quelque chose. Comme si j'étais pas disponible, en fait. C'est de briser la possibilité, enfin, le côté passif du corps qui juste marche, en fait. Et du coup, en arrivant à Lille, j'ai eu peur dans le métro. Donc là, j'ai fait des changements de station, des changements de rame, où vraiment j'ai eu des gros flips. Et je me suis dit, waouh, en fait, l'espace fermé est pour moi beaucoup plus dangereux que l'espace ouvert de la rue. C'est vraiment un endroit où là, par contre, je me retrouve toute seule dans une rame de métro avec 3 mecs, mais ça va pas du tout, en fait, là. L'impossibilité de pouvoir partir. En fait, c'est plus là que j'ai vraiment eu... les premières sensations d'angoisse profonde, quoi. Et au point où je prends plus le métro. Enfin, c'était l'incapacité de fuir.
J'ai souvent rêvé que je faisais du stop, puis j'avais un couteau, puis de le planter dans le ventre de l'homme. Puis après, il me disait, pourquoi tu fais ça? Je le regardais gentiment, ça me faisait de la peine, tout d'un coup, j'y écoutais. Il faut que je me sauve assez loin, mais je ne vais pas me faire prendre par la police. Quand je serai assez loin, je vais prévenir police secours. J'espère qu'ils vous sauveront. J'ai dit, mais il fallait pas faire ça. Je me suis tellement souvent sentie fatiguée en ayant fait de l'autostop jusqu'à être épuisée. Et tout d'un coup, je ne pouvais plus m'arrêter. Je me disais, si je m'arrête, ça va me tuer. Je suis dans le mouvement à fond et ça me tuera aussi. Mais il y avait une espèce d'exaltation. Et pareil, toujours cette peur de se dire, un jour, j'aurai trouvé mon tueur. Ben, c'est lui qui est au bout de la route. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est un... J'ai l'impression souvent qu'il y avait un tueur qui m'attendait au bout de la route. Que ça n'avait pas quelque chose à voir avec cette peur, justement, cette peur de l'homme. Donc il va falloir aller une bonne fois pour toutes affronter, quitte à en mourir, mais est-ce que cette peur, au fond, n'est peut-être pas insupportable? Vous empêche pas de vivre? Pour avoir ce désir d'y aller, c'est pas du masochisme, c'est, on n'a pas... C'est pas un désir d'être battu ou d'être violé, c'est le désir de faire face enfin, et peut-être de ne plus avoir, ne plus avoir de l'angoisse.
Pour moi, il y a un lien évident entre notre absence en tant que femme au poste de pouvoir, mais pas seulement, notre absence dans la littérature, notre absence dans les grandes idées, dans la philosophie, dans l'abstraction. Et pourquoi? Parce que c'est lié au corps. On est tellement occupé par ces histoires de corps qu'on ne peut pas s'occuper du reste, en fait. C'est pas possible. Concrètement, si on voulait, je pense, réoccuper tous ces endroits-là, il faudrait d'abord qu'on soit en sécurité physiquement. Je dis pas en sécurité dans ces endroits, je dis en sécurité dans la vie, au quotidien, en général. Parce que notre possibilité d'aller à ces endroits-là, elle date d'avant, de quand on est gamine, du quotidien, des endroits où on peut aller, des endroits où on peut aller avec le corps et avec notre esprit, quoi. Avec le corps et avec votre esprit, amen, quoi. Mais c'est... En fait, on dit oui, il y a de plus en plus de femmes dans ce secteur, etc. Mais... C'est pas une histoire de secteur, c'est une histoire d'ensemble, en fait. C'est que pour aller à l'institut politique, machin truc, on doit passer par la rue, en fait. Il faut sortir de chez soi. Il faut convaincre sa famille, il faut convaincre son entourage qu'on peut y aller. Il faut... Et puis, physiquement, il faut être en mesure de sortir de chez soi, de traverser la rue et de rentrer dans cet endroit-là. C'est hyper concret, en fait. On doit pouvoir traverser des endroits inconnus pour pouvoir en atteindre d'autres.
Un jour, je me retrouve en pleine forêt par hasard. Je marche sur un sentier et prise dans mes pensées, mon chemin dévie. L'instant d'après, je suis en forêt. Instinctivement, cette pensée. Je n'ai rien à faire là. Je me force à rester, les poings crispés, rester le plus longtemps possible, raide comme un poteau au milieu de la forêt, et continuer à penser « je n'ai rien à faire là ». M'enfuir, partir sur la pointe des pieds, mon instinct me dit qu'il existe des endroits où je ne peux pas aller. Je n'ai rien à faire là, alors qu'il n'y a personne. Et je reste quelques instants. Est-ce qu'on peut dompter son instinct, réduire le taux de peur inoculé dans les veines d'une femme depuis l'enfance?
J'en ai un qui me revient, qui m'a beaucoup marqué, c'était le retour à pied du RER jusqu'à la maison, parce qu'il n'y avait plus de bus. Il faisait nuit, il y avait juste des petits réverbères allumés, mais il n'y en avait pas assez, donc déjà l'ambiance n'était pas très rassurante. Et en fait, je longeais la route, et là, il y a une voiture qui est arrivée à fond, et qui s'est... Alors, ils étaient quatre dedans, et ils sont arrivés de derrière moi, et ils ont freiné au frein à main, juste à ma hauteur. Ce qui fait que la voiture, elle a fait un dérapage sur les pneus, juste devant moi, avec la musique à fond. Et ça m'a terrifiée d'avoir entendu de la musique, une voiture qui arrive déjà beaucoup trop vite et qui freine devant moi avec les crissements de pneus. Et j'ai eu tellement peur, j'ai vécu ça que cette fois-ci dans ma vie, la sensation d'avoir tout le corps glacé d'un coup, d'être traversé par tellement d'adrénaline que ça fait une sensation de glace dans le corps. Et j'étais tétanisée, à l'arrêt sur le trottoir. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais pissée dessus de peur. Et les quatre connards dans leur voiture, là, en travers de la route avec les phares allumés, avec la musique à fond, et ils étaient morts de rire parce qu'ils ont vu qu'ils m'avaient terrorisée. Un sentiment de honte absolue d'être là. Peur et honte. Ouais. Honte. Ouais, dans ces moments-là, j'aurais envie d'être que mes parents m'aient fait moche et enfin, je dis pas que je suis super belle, mais je suis pas un monstre non plus. Et là, dans des moments comme ça, j'ai honte d'être jolie ou d'être maquillée. Ou pourquoi honte, je saurais pas dire.
La nuit, j'ai les nerfs, quoi. Là, j'écoutais un ami récemment qui me disait qu'il était aux États-Unis sans argent. Bon, la nuit, tu vois, moi, si je suis dans ce cas-là, vraiment, je pense que je flippe vraiment, tu vois. Et je me dis, bon, ben, lui, c'est un homme. Donc, il a moins peur. Je sais pas, je me dis ça, tu vois. Quand même, par rapport à tes amis qui font du stop et qui partent toutes seules, moi, vraiment, je serais flippée. Et vraiment, j'ai les boules d'être une femme pour ça. J'ai vraiment les boules. J'ai les nerfs de pas pouvoir faire des trucs quand même que peuvent faire les hommes. Pourtant, je peux voyager. Enfin, je veux dire, j'ai discuté avec des femmes, elles vont me dire « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Évidemment que tu peux voyager toute seule. Et moi, ça me fait flipper. Je pense que c'est un interdit que je me mets.
On a besoin d'être seule pour penser. Moi, j'ai toujours eu des copains qui se promenaient seuls, qui ont fait des randonnées incroyables seuls, que moi, je n'ai jamais faites, alors qu'on se ressemble. On est amis, on partage les mêmes lectures, on partage presque les mêmes envies, mais il y a des choses que moi, j'ai jamais faites. Et c'est vrai qu'en y pensant, je crois que ma colère, elle vient de là aussi. C'est que, à la fois, j'ai l'impression d'être responsable dans le fait de pouvoir ne pas pouvoir être seule. Genre, je suis incapable d'être seule. J'ai toujours besoin de compagnie. Comme si c'était moi qui étais le sujet du problème. Alors qu'en fait, si je ne suis pas capable d'être seule, c'est peut-être parce qu'aussi l'extérieur ne me donne pas la possibilité d'être seule. C'est... Combien de femmes ont la possibilité de se louer un petit chalet tranquille à tel ou tel endroit pour pouvoir être seule? Il n'y en a pas beaucoup. Et être en sécurité, surtout. Être en sécurité.
Dans mon appartement? Oui, plutôt. Mais en fait, oui et non, parce que... Enfin, oui, je me sens protégée, mais par exemple, il y a un type qui est venu réparer ma machine à laver. Il était à l'intérieur de chez moi, tu vois. Dans mon appartement. Mais franchement, je me suis vraiment sentie pas bien. Il a réparé cette machine à laver. Et puis, il m'a proposé de payer en nature.
C'était assez incroyable. En plus, j'habite dans un studio. Donc, si tu veux, il y a le lit qui est là, tu vois. Tout est là, en fait. Donc, t'as l'impression d'être à nu, quoi. Là, c'est que tu rentres vraiment à l'intérieur de chez moi, l'intérieur de moi, quoi. Et il me propose ça. Il me dit, voilà, si vous voulez, on peut payer. Vous pouvez payer. Ou sinon, on peut passer 5 minutes, là. Hallucinant. J'ai dit, non, ça, je vais payer. Mais après, j'étais outrée. Mais j'étais outrée, énervée, bouleversée. Ah non, mais c'est d'une violence. Mais en fait, je me suis pas rendu compte sur le coup. Parce qu'il savait très bien, ce monsieur, qu'il était à l'intérieur de chez moi, dans mon intimité. Et moi, forcément, après, tu te fais des films. Tu te dis, mais attends, le mec, il sait où j'habite. Et puis, t'es tout seul chez toi. Enfin, en fait, tout est possible, quoi, tu vois. Tu dis, comment je vais me défendre de ça? Ton cerveau, il fait des trucs de fou, quoi. Alors que si j'avais été avec un homme ou si j'avais été un homme, mais voilà, jamais de la vie, ça serait passé, en fait. Et en fait, t'es flippé que ton électroménager, il tombe en panne, juste parce que tu te dis, s'il y a un type qui vient, parce que c'est souvent des types qui viennent réparer. Et en fait, déjà, t'as pas la rue, mais en plus, t'as pas ton appartement, quoi. Salaud. Après, je l'ai digéré, évidemment. Mais pourquoi je l'ai digéré? En même temps, j'aurais dû leur écrire, ce truc-là. Je peux encore. Hein. Et pourquoi je l'ai digéré? Parce que ça arrive souvent, en fait. J'ai beaucoup moins peur dans une maison au milieu de la montagne, toute seule, je crois, que des fois en ville. Très bizarre. Hein. Peut-être parce que ça fait partie de... J'ai beaucoup plus l'habitude. Des bruits, des sons de la campagne. Qui sont plus des sons de portes, d'animaux, de... Ben, je sais que j'ai par exemple changé carrément mes habitudes vestimentaires en changeant de ville. Parce que quand t'as une voiture, t'es beaucoup plus protégée. Je me sens beaucoup plus protégée. Je peux en voiture m'habiller vraiment comme je veux. Aller en ville et puis... parce que j'ai pas tout le transport en commun, les machins, les trucs. Du coup, c'est vraiment beaucoup plus libre.
Ben, c'est... La voiture, c'est... C'est l'indépendance, c'est un cocon, c'est un endroit où on est protégé. Il n'y a pas le monde extérieur, mais on le voit quand même. C'est un endroit où on fait quelque chose, mais je peux laisser aller mes pensées, divaguer, rêver, pleurer, rire. C'est un endroit où je peux relâcher, où personne ne va... pouvoir venir, en fait, quand on est en mouvement. Je me sens vraiment dans mon nid, quoi.
Rester confiante. Ah oui, je me souviens, j'avais 19 ans, je partais en Belgique. Je travaillais dans un centre d'accueil, je faisais une année sabbatique. Je fais du stop vers la Belgique. Un homme s'arrête. Je commence à lui parler, j'étais contente. J'ai dit, l'important, c'est de faire confiance aux gens, c'est de leur parler, c'est d'être bien, d'être heureuse, d'être... Et j'ai tant de choses à lui raconter sur ma Belgique, sur ce que je vais faire. Et tout d'un coup, du coin de l'œil, quelque chose me dit, quelque chose n'est pas normal. Je regarde, il n'avait pas de pantalon ni rien. Je me dis, ah. Je me dis, on verra bien. Peut-être qu'il ne va rien me dire, peut-être que ce n'est pas un problème. Alors je continue à lui parler. Et tatata, et tatata, mes histoires. Et pour finir, il s'arrête. Alors je le regarde tranquillement, j'ai écouté. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez vous promener sans pantalon, ce n'est pas mon problème. Mais vous me laissez tranquille, alors vous ne me touchez pas, moi je ne vous toucherai pas. Il était assez stupéfait. Et... Il est reparti. Il s'est rhabillé d'abord. Il est reparti. Et plusieurs fois, avec une espèce de... J'ai dit au gars, mais vous faites ce que vous voulez. Le gars voulait se masturber, là. Il voulait m'embêter. J'ai dit, écoutez, non, je vous fais rien, mais faites ce que vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ça vous regarde. Après tout, donc, ça, c'était pas bien grave. Parfois aussi, j'ai pas eu de chance. Des fois, on peut pas toujours échapper, c'est sûr. Et là... Une fois, d'ailleurs, j'ai eu un gros problème. C'est-à-dire, je me suis fait violer. Le gars m'a... C'était en stop. Je m'étais assoupie. Et c'était vers le Castellet, là, dans ces forêts perdues. D'un coup, il a pris un chemin, ça m'a réveillée. Ce qui m'a réveillée, c'est qu'il y avait une prostituée qui était là. Et qui lui dit, de manière pas très agréable, vous n'avez pas le droit d'aller là. J'ai appelé cette femme au secours. J'ai dit, madame, aidez-moi. Et elle a dit, allez-y. Donc parfois, Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Je me dis, si elle l'avait empêché, ça ne me serait pas arrivé. Non, après j'ai eu extrêmement peur, mais je me disais... pense aux cow-boys. Les cow-boys risquaient de mourir tous les jours. Et c'était pour de bon. Une balle dans le ventre ou dans l'estomac. Bon, c'est amusant, c'est souvent des images assez naïves qui m'ont sauvé la vie, justement. Ou pas la vie, mais enfin, qui m'ont sauvé la... m'ont fait m'en sortir toute seule. Et j'y écoute. C'est pas parce qu'un homme aurait été plus fort que toi pendant une heure, une fois dans ta vie, que tu vas te laisser aller. Et puis donc, je me suis dit, il faut que tu continues, ils vont pas t'arrêter quand même.
Il est 6 heures du matin. Irine Jalakuta. J'ai mis dans mon sac, j'ai mis mon petit cahier où je prends des notes. Et puis j'ai un dictionnaire d'anglais parce que je comprends pas grand chose parfois. Mais avant ça, je vais essayer d'aller voir le soleil qui se lève.
J'ai souvenir du coup de ces forêts aussi au Canada. Où t'as l'impression que t'es entouré de portes qui grincent. Des sons, un silence habité, mais y a plus la ville, et puis c'est marcher dans la forêt. Se perdre longtemps, enfin. Et c'est en même temps tout d'être vivant. C'est tout ton vivant qui, tout d'un coup, se réveille. Et quand je vais pas bien, je vais me promener en forêt. C'est un lieu qui me ressource. J'ai aucune inquiétude.
Je me suis inventé une vie qui commençait dehors. En pleine ville, en pleine nuit, en pleine montagne, à n'importe quelle heure. Avec ses herbes sèches et ses troncs creux. La folie dans tous les sentiers, et c'est une folie intouchable. Je me suis inventé une vie qui commençait dehors. J'y ai construit une histoire qui a les mains pleines de terre, et qui assiste à des enterrements nocturnes, des obades minuscules, des assassinats d'ombre.
Oui.
voir que ça tient. Attendre un peu. Je me suis instruit d'un deuxième corps, d'une deuxième trajectoire à travers le silence. Battement faible, corps qui se redresse, se donner à voir.
J'ai eu des expériences qui m'ont marqué dans le corps. C'est comme un jour j'avais trop bu, c'était un soir et je courais pour rattraper un mec dont j'étais tombée amoureuse, je sais pas quoi. J'étais complètement alcoolisée et j'ai couru et j'ai sauté un petit muret et je suis tombée. Et en fait, je me suis fait une super entorse à la cheville. Et depuis ce jour-là, j'ai super peur de sauter. Dès que je dois sauter un muret, même pas très haut, tu vois, 2 mètres, 1 mètre, je pense à ce moment-là et à la douleur. Et du coup, on a un choc dans le corps. Et du coup, on n'ose plus se trimballer dans la rue, jouer... S'amuser, prendre des risques. Mais comment ça devient un appui et pas un obstacle, justement. Comment on se souvient de ce qui nous est arrivé et on se dit, bah non, en fait, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver à chaque fois. Je me suis fait mal une fois et on m'a fait mal. Mais je vais le refaire en fait. Je vais repartir toute seule en stop. Je vais re-sauter le muret. Je vais marcher la nuit toute seule.
Au départ, c'était un préalable, la peur. Parce qu'avant, j'avais l'impression d'avoir peur tout le temps, même quand il n'y avait pas de signe que j'allais subir quelque chose ou qu'il y avait un danger imminent. C'est-à-dire que j'avais peur systématiquement en sortant dans la rue la nuit. J'ai souvent entendu, quand j'étais adolescente ou petite fille, qu'il ne fallait pas que je sorte toute seule. Dehors, que valait mieux que je sois accompagnée, etc. Après, quand j'étais adolescente, je pouvais globalement faire à peu près ce que je voulais. Mes parents, ils me laissaient faire vraiment ce que je voulais. Mais là où j'ai vraiment, vraiment pris conscience que je pouvais être en danger dans la rue, c'est quand j'étais au lycée et j'allais au conservatoire à Mulhouse. Et le soir, donc, j'avais des cours de solfège qui se terminaient tard. Il fallait que je traverse toute la ville à pied, toute seule, vers 21h, 22h. Et du coup, en hiver, il fait largement nuit à cette heure-ci. Et je pense que c'est la première fois où des mecs m'ont suivi dans la rue, où des voitures ont roulé au pas à côté de moi. Alors, ils faisaient rien, ils ne sont pas sortis de la voiture. Mais c'est assez marquant parce que du coup, je savais pas jusqu'à chez moi ce qui allait se passer, s'ils allaient finir par sortir de la voiture Et je sais pas, me mettre dedans de force ou je sais pas du tout. Ils ont rien fait et c'était... Enfin voilà, ils ont rien fait de plus que de me faire peur en fait. J'étais pas du tout dans un truc défensif, c'est-à-dire de me défendre ou de répliquer. C'était plutôt ne pas les regarder, les ignorer, faire comme si j'avais pas entendu, ne surtout pas répondre parce que je... Enfin... Voilà, je me disais, si je réponds, ça va être pire. Il m'est jamais rien arrivé, mais j'ai eu peur assez souvent sur ce trajet-là. Aujourd'hui, mais ça fait quelques années, j'ai plus du tout peur dans la rue la nuit. Et c'est dû à un événement assez particulier. Donc, pendant mes années de fac, je faisais partie notamment d'un groupe féministe qui s'appelait les Poupées en Pantalon. Et un jour, on a fait une marche de nuit non mixte contre les violences faites aux femmes. Et à peu près à cette période-là, j'ai compris plusieurs choses. La première chose, c'est que effectivement, sortir avec plein de femmes dans la rue, ensemble, en scandant des slogans sur l'appropriation de l'espace public par les femmes, la nuit, en disant qu'on avait notre place partout, etc. Ça a été extrêmement galvanisant. Et c'est à peu près aussi au même moment où j'apprends que la plupart des violences, elles se produisent pour les femmes dans l'espace domestique et pas du tout dans la rue. Si il est plus probable que je sois victime de violence, qu'on me frappe ou qu'on me viole ou qu'on m'agresse à l'intérieur de chez moi par une personne que je connais. Pourquoi c'est de l'extérieur et de gens que je ne connais pas dont j'ai le plus peur? Donc je me dis, c'est bizarre, c'est pas du tout logique. Je devrais avoir peur chez moi et me sentir en sécurité à l'extérieur. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de violence à l'extérieur, évidemment. Mais qu'en termes de probabilité, puisque c'est sur cette probabilité qu'on crée de la peur chez les petites filles, on leur dit « tu vas risquer d'eux ». En fait, le risque, il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça a vraiment changé tout pour moi. Et là, je me rendais compte que cette peur-là, elle était construite et que c'était un moyen de m'exclure de l'espace public.
Pour moi, les premières réunions, juste entre nanas, c'était la découverte de ça, c'était trop bien. C'était trop bien. Repartir de ces endroits-là, c'est repartir avec un temps de repos, pour moi. Je sais pas, il y a une liberté que j'ai pas dans le monde, dans le reste des espaces. Il y a une liberté entre femmes que je prends, qui m'est donnée, qui m'est autorisée par les autres, qui... C'est comme une sieste, quoi. Ça te permet de te redonner l'énergie pour continuer. Et on peut juste respirer. Parce que dans le monde, je vais faire attention à ma posture, à tout ça, que enfin, il y a une vigilance quand même tout le temps que dans ces espaces-là, je peux relâcher. Où je peux me dire, voilà. Même si après, on n'est pas d'accord, on s'engueule, c'est normal. Enfin, voilà, c'est pas... Mais ouais, Je peux me relâcher. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Loin de l'extraordinaire, ce qui se passe, c'est juste que c'est un vrai moment de joie.
La marche se termine et je rentre chez moi toute seule, dans la nuit, du coup. Mais tout ce qui s'est passé pendant cette marche, je le garde avec moi, c'est-à-dire que je l'emmène avec moi jusque chez moi. Et c'est la première fois où je me retourne pas pour voir si quelqu'un me suit et j'ai pas peur. C'est-à-dire que ça a produit un effet, l'effet voulu en réalité, c'est de me sentir chez moi dans la rue la nuit. Je flânais, mon regard n'était plus focalisé sur tel gars qui arrive en face et qu'il faut que j'évite juste au cas où. Et du coup, ça me libère en fait de la rêverie aussi. Dans ma tête, je réfléchis pas au danger, donc je suis pas occupée par le danger potentiel, mais juste par les chants que j'ai encore en tête, par juste le plaisir en fait de marcher tranquillement, toute seule, etc. En fait, c'est de se sentir libre aussi de marcher, c'est-à-dire qu'on frôle pas les murs, on se retourne pas toutes les deux secondes, on n'est pas à l'affût, mais on profite en fait du fait que c'est agréable de marcher dans une ville avec les lumières du soir, sous les étoiles. Enfin, en fait, une expérience hyper agréable pour n'importe qui. C'est-à-dire de profiter simplement de se promener. Même si le lendemain, t'es toute seule dans la rue ou t'es toute seule à ton travail ou à la fac ou quoi... T'as dans ta tête aussi toutes les autres femmes avec lesquelles t'as crié quelques jours avant ou la veille. C'est des présences qui t'accompagnent, mais ça change quelque chose de se dire que t'es pas seule.
Elle y a été. Elle a été dans la forêt la nuit, hier soir. Toute la matinée, cette pensée en boucle et obsédante, elle a vu la nuit.
Il y a le poème de Rimbaud qui me vient. J'ai embrassé l'aube d'été, rien n'a bougé. Au réveil, il était midi. J'ai voilà, je suis encore dans un... Je suis dans la forêt. Je crois pas avoir eu souvent peur des forêts.
Traverser les forêts. Camille, Noémie, Morgane, Aurore, Lorraine, Marie, Nelly et Marion. Merci à Flore, Alinour, Michel, Irène Omelianenko, Pascal Tison, Inès De Bruyne, Catherine Dan et le CNES de Villeneuve-les-Avignon. Avec le soutien de la bourse Gulliver, SACD Belgique, SACD France. Extrait sonore des carnets de voyage de Camille. Prise de son et mixage, Olivia Granger, Delphine Baudet. Création On Air, Traverser les forêts. Une émission de Judith Bordas, réalisée par Annabelle Brouard. Listen down, oh, 1, 2, 2, 9, 10, 10.
easy stones and in the half light of this can hunt down our whole one to tonight and on I say see stones and in the half light.
Création en air se réécoute sur franceculture.fr. La semaine prochaine à 23h, tiens, v'là les comédiens. Le monde est-il un théâtre où chacun doit jouer son rôle? Avec la troupe ardéchoise Rocambolissimo, une émission de Lionel Quentin. Vous écoutez France Culture, attention, dans un instant, vous allez basculer de l'autre côté de la nuit pour une nuit d'archives.